qui viendra. Deux avoues, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Regardez les vieux coqs, genoux édifiantes. Rien de vous ne pourra monter aussi haut que. Et le peu qui viendra, deux avoues, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous sur Radio Libertaire pour cette émission Livre en Lutte. Aujourd'hui, rediffusion d'un podcast sur les chansons goualantes. Alors, une émission assez musicale. Bonne écoute. Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette huitième émission Livre en Lutte sur Radio Libertaire. Aujourd'hui, le thème, les goualantes. Donc, les goualantes, ce sont les chansons populaires. C'est un vieux thème d'argot qui date d'au moins 1821. Donc, il y a des bouquins, je vais vous les présenter. Donc, l'idée de cette émission, elle vient du livre de la réédition chez l'Insomniac d'un bouquin de 1929 par Émile Chautard qui s'appelle « Goualantes de la Villette et d'ailleurs ». Après, il y aura aussi Chronique du Paris Apache, c'est le bouquin qui contient notamment l'histoire de Casque d'Or, paru en 2008 au Mercure de France. On va pas mal parler prostitution, donc il y aura aussi, on va utiliser le livre de Parent du Châtelet, La prostitution à Paris au 19e siècle, de 1836 et qui a été réédité depuis. Le catalogue de l'exposition de peinture Splendeur et misère des courtisanes de 2015, il y a beaucoup de textes, c'était vraiment un bouquin magnifique. Et puis le livre de Maryse Choisy, Un mois chez les filles, de 1928, un livre vraiment extraordinaire. Donc l'auteur s'était fait engager comme soubrette dans les bordels de la capitale, et puis finalement, elle en a interdit la reparution parce qu'elle a fait un mariage bourgeois, devenue peut-être même un peu bigote. Donc heureusement, elle a été rééditée depuis, en 2015, il n'y a pas très longtemps. Donc, tout livre que vous pourrez acheter ou commander chez Publico, 145 rue Amelin, métro Oberkampf. Donc, ce thème des chansons goualantes, c'est l'occasion d'évoquer, si on a le temps, et les Apaches, et la prostitution, et l'histoire de Casque d'Or, la police, l'argot, les illustrateurs, et par le fait, eh ben, la presse, la police, les bataillons d'Afrique, l'hôpital prison Saint-Lazare. Pour les chansons, on va éviter les enregistrements d'époque, qui sont, à vrai dire, un petit peu pénibles à écouter, sauf si on est vraiment très très curieux. On va donc alterner des chansons ou des monologues de Bruant dans des versions de Marc Augeret ou de Chapeau, et des versions beaucoup plus rock, voire reggae, reprises dans le CD qui est inclus dans le livre Les Goualantes. Alors, on va commencer par une première chanson pour introduire le thème des Apaches. C'est « Quand on est pègre » par le groupe The Modest Lovers, donc sur le CD des Goualantes. Il faut savoir que cette chanson a été écrite à la prison de Mazas, à Paris, par une bande qui avait volé un coffre-fort chez un parfumeur en passant par le plancher de l'appartement du dessus. Et le projet avait été conçu dans un resto louche de la rue Galande, qui était aussi fréquenté par le père Pichon. Alors lui, il ramassait les mégots et il les triait pour revendre le tabac le matin aux ouvriers de Place Maubert, le fameux marché aux mégots. Et cette chanson est elle-même inspirée par une chanson écrite auparavant avec une allumette et du sang sur les murs de la Grande Roquette par le nommé Abadi, dit Troubadour.
Soir, j'étais dans la débine, un coup de fade, il nous fallut donner. Pour travailler, je mis au point ma combine et mes outils, j'allais les décrocher. Juste en passant, le portier nous escrache. J'étais fourgué, mais la vie cachait tout. Le jardinant, j'ai frisé ma moustache. Quand on est pègre, on peut passer partout. remous et je débride. Mes trois poteaux se mettent au turbin. Chez un banquier, la caisse n'est jamais vide. Suffit de savoir où dorment les talbins. Ta condition est défilée d'avance. Le rigolo fit bientôt casser tout. Du quel plaisir, on avait l'espérance. Quand on est bête, on peut voler partout. Le coffre fort fut mis dans la roulante. Par toute l'escorte, il fut bien entouré. Chez Père Clément, on lui ouvert le ventre. Lorette Fafio, l'enfant était gavé. 40 billets, telle était cette aubaine. Allez, ça marche, que ce fut un fier coup. De les manger, on n'était pas en peine. Quand on est bête, on peut se payer de tout. Mes pauvres camarades, rentrant chez eux, par l'arnaque furent pincés. Ils revenaient de faire une rigolade. 3-10, comment pouvoir lutter? Vrai compagnon de la haute fraternelle, ils furent vaincus, mais n'avouèrent rien du tout. À mes poteaux, à vous gloire éternelle, car pour les mecs, le devoir avant tout. Mes chers amis, j'ai fini leur histoire. À la nouvelle, tous trois ils partiront. Oui, mais bientôt, sous peu j'avais l'espoir. Prisant leur fer, vers l'eau ils reviendront. On s'en pas mort à toute la police. C'est l'âge bandit, sans pitié faire de tout. On les pommera, où est-ce que ça sera justice? Car pour les pègres, la vengeance en tout. Et donc on les fera, et ce sera juste ça. Car pour les mêmes, la vengeance avant tout.
Voilà, donc maintenant, on va commencer par le livre d'Émile Chautard. Donc sorti en 29, un ouvrier typographe dont on nous dit qu'il a passé plus de temps au zinc qu'au marbre et qui reprend les chansons de la vie du populo de 1870 à la fin des années 20. À noter que beaucoup de chansons qu'il a retranscrites n'ont jamais été éditées et encore moins enregistrées. Alors ce livre contient une chronique sur les bandes d'Apache, la lettre d'un ex-tolard qui demande à un truand de retrouver ceux qui l'ont dénoncé pour les dénoncer à son tour. Il y a 3 photos de tatoués, des gravures de presse, un poème et 3 lettres de bonhomme qui était à Biribi dans les bataillons d'Afrique, les bataillons disciplinaires. Il y a des photos, il y a la repro de la couverture d'un recueil de Bruant, etc. Donc c'est un livre qui vaut aussi pour son intro particulièrement érudite, dont je vais citer quelques phrases. Donc je vais parler des bandes d'Apache, mais le mot Apache, en fait, il apparaît qu'en 1900. Avec un summum, nous dit-on, en 1907, pour ce qui est de l'angoisse sécuritaire, où les journaux voient Paris comme une ville assiégée par les bandes, et elle symbolise les échecs des institutions et des politiques républicaines, qu'il s'agisse de l'école, de l'armée, de la prison ou des syndicats. Donc, au niveau des chiffres, on entend des choses très très différentes. Dans le Petit Journal, en 1907, on peut lire « L'Apache et la plaie de Paris, plus de 30 000 rôdeurs contre 8 000 sergents de ville. L'Apache et la plaie de Paris, nous démontrons plus loin que depuis quelques années, les crimes de sang ont augmenté dans d'invraisemblables proportions. On évalue aujourd'hui à au moins 70 000 le nombre de rôdeurs, presque tous des jeunes de 15 à 20 ans qui terrorisent la capitale. » Alors ces Apaches, ils vont disparaître avec la Première Guerre mondiale. Au retour, ce sera pas du tout, il y aura plus ces bandes-là en fait. Ils vont disparaître dans les combats. Donc dans les Goualandes, donc Chotard reprend les palmarès des bandes, donc c'est assez parlant. Alors pour la bande de Montmartre, il écrit « La cour d'assises de la Seine a condamné à mort 11 des criminels de Montmartre, 27 aux travaux forcés à perpétuité, 103 au bagne à temps, pour 14 assassinats, 18 meurtres, 28 faux-monnayages et 75 vols avec effraction suivie de violence. » Pour la bande de la Maube, il dit « 2 furent condamnés à mort, 12 à perpétuité, 8 aux travaux forcés à temps, pour assassinat, meurtre, vol avec effraction, attaque suivie de violence, virgule, etc. » Pour la bande de la Villette, il dit « c'est une bande qui s'est constituée très tôt, dès après la Commune. » Il dit « de 1872 à 1900, 7 de ces criminels furent exécutés, 14 condamnés aux travaux forcés à perpétuité, 55 aux travaux forcés à temps. » Et pour la bande de Montparnasse, il dit « nous relevons dans ce quartier criminel 4 condamnations à mort, 7 à perpétuité, 32 aux travaux forcés à temps, pour assassinat, fausse monnaie, meurtre, vol avec violence. Nous omettons à dessein les condamnés à la réclusion et à la prison. » Alors il continue plus loin sur les causes de ces bandes et il dit « Les faits rapportés ici sont une peinture fidèle de l'étrange et inquiétant milieu où je conduis le lecteur. Milieu qui a ses côtés lugubres, tragiques, sanglants, mais qui connaît aussi de fréquentes heures de folle gaieté, et qui présente, au point de vue documentaire, une passion de vie sauvage, d'intelligence affinée, de courage incontestable et aussi de fraternité touchante. Qualité qui, dirigée vers une autre voie, eussent fait de ces êtres, catalogués parmi les malfaiteurs, des hommes remarquables, parce que exceptionnellement doués. Question d'aiguillage, si je puis dire. Or, l'aiguilleur étant la société, à qui incombe la réelle responsabilité de ces déraillements ?» Fin de citation. Pas mal, Émile. Donc, après, je vais aborder la prostitution, et on va s'écouter la chanson « Belleville-Ménilmontant » d'Aristide Bruand, par une interprétation de Chapeau. Alors Chapeau, je ne sais rien sur lui, je sais qu'il habitait à Gordes, c'est absolument introuvable, hein, y a rien sur le net, sur le tube, et je vous passe ça tout de suite.
Papa c'était un lapin qui s'appelait J.B. Chopin et qui avait son domicile à Belleville. Le soir, avec sa petite famille, il se baladait en chantant des hauteurs de la courtille. Ménilmontant, Ménilmontant. Il buvait si peu qu'un soir, on l'a retrouvé sur le trottoir, qu'avait crevé bien tranquille à Belleville. On l'a mis dans la terre glaise pour un prix exorbitant, tout en haut du Père Lachaise, à Ménilmontant, à Ménilmontant. Depuis c'est moi qu'est le souteneur naturel à ma petite sœur, qu'elle habite la petite Cécile à Belleville, qu'est soutenue par son grand frère qui s'appelle Éloi Constant, qu'a jamais connu son père à Ménilmontant, à Ménilmontant. Ma sœur est avec Éloi, dont la sœur est avec moi, soir sur le boulevard Hilarfil à Belleville. Comme ça, je gagne pas mal de braise. Mon beau-frère en gagne autant, puisqu'il refile ma sœur Thérèse. Ménilmontant, Ménilmontant. Dimanche, au lieu de travailler, je monte les bombes au poulailler, voir jouer le drame, le vaudeville, à Belleville. Le soir, on fait ses épates, on étale son culbutant, mince des genoux et large des pattes. Ménilmontant, Ménilmontant. C'est comme ça qu'est le vrai moyen devenir un bon citoyen. On grandit sans se faire débile à Belleville. On crie vive l'indépendance, on a le cœur bête et content, et l'on nage dans l'abondance à Ménilmontant, à Ménilmontant.
Voilà, alors c'était Chapeau. Alors c'est une chanson d'Aristide Bruand. Pour la petite histoire, l'orchestre, c'est l'Orchestre Royal de Stockholm. Je ne sais pas pourquoi. Alors on passe à la prostitution. Donc elle était, elle n'était pas interdite, un peu réglementée. Et c'est vraiment le gros phénomène social, je trouve. Le nombre a vraiment explosé à partir du 19e siècle. Difficile de donner des chiffres. En 1872, on compte 40 établissements dits brasseries à femmes. Donc en fait, c'était des brasseries ouvertes à tous, mais où les gens pouvaient consommer pas que de la bière. En 1879, donc là, on est déjà à 130, et en 1889, à 250. Et je parle que des brasseries à femmes. On dit qu'à la belle époque, on donne le chiffre de 224 bordels à Paris. Donc là, je vais passer à ce que j'ai trouvé dans le bouquin de Parents du Châtelet. Alors, ça a été réédité en 2008, donc on peut le trouver. Donc c'était un bourgeois médecin qui n'avait pas besoin de travailler pour vivre et qui est un petit peu au début de la sociologie. Donc c'est une enquête de 8 ans, c'est un enquêteur de terrain, même s'il embauche parfois d'autres enquêteurs, et il a dépouillé des registres, des préfectures, des prisons, des hôpitaux, etc. C'est-à-dire qu'il a créé des statistiques qu'il croisait ensuite, et ça c'est tout nouveau. Il faut rappeler que la première revue de sociologie apparaît qu'en 1894. Alors, il n'est pas dans l'indignation bourgeoise, c'est pas son truc. Par contre, toute sa vie, il sera très énervé par les préjugés médicaux. Et lui, il aborde les causes. Alors, il commence par tourner autour du pot. Il cite la paresse, ne pas vouloir travailler. La misère de celles abandonnées par leur famille. Un truc intéressant, il dit, en troisième cause, les filles abandonnées par leurs amants. Il parle des militaires, étudiants, commis voyageurs ou autres, qui ont séduit des filles en province, leur ont fait de fausses promesses, les ont fait venir à Paris et les ont bientôt abandonnées. Une autre cause, celles qui ont fui des familles, où elles étaient maltraitées par leurs parents, ou par des maris, ou des beaux-pères, ou des belles-mères. Celles qui ont été mises au travail très jeunes, dans la rue à vendre des fruits, des légumes ou à chanter, ou mises très jeunes dans les ateliers, là où elles ont été en contact avec des personnes qui avaient des parcours divers. Et puis, enfin, il écrit « De toutes les causes de la prostitution, particulièrement à Paris, il n'en est pas de plus active que le défaut de travail et la misère, suite de salaires insuffisants. » Et ben voilà, il fallait le lire tout de suite. Alors après, je vais évoquer le magnifique album de l'exposition de 2015 « Splendeur et misère des courtisanes ». Il y a beaucoup de textes, ça, c'est super intéressant. Donc il y a une petite blagounette. En 1896, Toulouse-Lautrec organise une exposition, mais ses tableaux de maison close sont à l'étage, dans deux petites pièces dont il a la clé, et il n'y admet que ses amis et surtout pas les marchands d'art. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? D'autres choses que j'ai... Les métiers des prostituées, ça c'est intéressant parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'occasionnels. Il y avait beaucoup de femmes qui n'arrivaient pas à survivre, comme l'a dit Parent du Châtelet, de leur petit salaire. Donc parmi les métiers, il y avait notamment les fleuristes, les modistes, et tout ce qui est couturière, lingère, etc. Les soubrettes, alors ils citent les femmes de photographes, bon, les modèles d'atelier. Les modèles d'atelier, moi je sais qu'il n'y en avait que 15% qui étaient des filles publiques. Et puis aussi les danseuses de l'opéra. Ça, on y viendra quand on parlera des illustrateurs. Et c'était quand même très courant. Je n'aurai pas le temps d'en dire plus. Donc je vais passer une autre chanson, plutôt un monologue. Par Marc Augeret dans un gros coffret de 4 vinyles. Donc on va se passer ça.
Visiter tout ça, mais j'ai vu la terre.
Quand la marmite allait sur le tas, c'est pour son marlou qu'elle trimarde. Qu'elle soit l'hirondjem ou tocarde, faut qu'elle étreine ou garota. Et dame, a choisi pas sa gueule, quand même qu'il aurait un bubon. Le premier qui veut quand elle est meule, c'est Monsieur le Bon. Quand la marmite est à la tour, elle marle, il est dans la débine. Pour boulotter, faut qu'il turbine. Il s'en va sur le tas à son tour, à coups de lingue, au coin d'une impasse. Qu'il soit jeune ou qu'il soit barbon, tant pis pour elle, premier qui passe, c'est Monsieur le Bon. Alors Almarle est arrêté. Et puis on l'emmène à la butte, tout ce qui fait sa dernière culbute à la barbe de la société. Et pendant que le bingue y s'apprête à poser son doigt sur le bouton, Almarle y dit en passant sa tête « V'là, monsieur le bon ».
Voilà, petit monologue. Donc là, maintenant, je vais passer au bouquin de Maryse Choisy, « À moi chez les filles ». Donc, je me suis un petit peu moqué d'elle tout à l'heure en disant qu'elle avait interdit la publication après avoir fait un mariage bourgeois. La vérité, elle est plus subtile et plus intéressante, et tout est dans le livre. Donc, il y a un ton très particulier dans ce bouquin. Et il écrit, par exemple, plusieurs fois que la vie est invraisemblable. Elle parle d'une prostituée noire qui parle un français très pur. Et elle écrit « Il n'y a plus que les filles qui ne connaissent pas encore ou plus l'argot. C'est horriblement invraisemblable. La vie est toujours invraisemblable. Il faut la corriger, cette garce qui n'est jamais en règle avec les règles. Heureusement que les romanciers sont là pour dresser des contraventions à la vie. » Donc elle évoque ce qu'elle appelle un client chronomètre. Là aussi, elle dit « Mais je ne vous ai-je pas dit que la vie est un tissu d'invraisemblance ?» Elle rapporte l'histoire d'une midinette qui est vierge, qui croit qu'on peut avoir un enfant avec un baiser et qui se présente dans un bordel pour être embauchée. Et elle écrit « C'était si invraisemblable que cela devait être certes vrai. » Elle écrit aussi « Ce qui nous sépare le plus des filles, c'est leur bourgeoisie. Elles n'ont aucune fantaisie dans la fantaisie. Ce sont des petites puritaines qui cherchent à amasser le plus d'argent possible pour se retirer le plus tôt dans une ferme hygiénique. » L'institution des courtisanes se perd, n'est plus. A-t-elle seulement été ? Je commence d'avoir des doutes sur les Étaïr, sur Catulle, sur Pierre-Louis. Littérature. Ils ont dû poétiser tout cela. Je me méfie des poètes. Elle écrit aussi « On est aussi hypocrite aux Halles qu'aux Champs-Élysées ». Elle écrit aussi « Rien ne me dégoûte davantage que les petites saletés exprimées en un style d'Anatole France. Moi j'écris sans hésiter « merde, cul, sexe ». Ce sont des mots nets. Noble, franc, courageux, des mots qui font image parce que peu usités. Mais imprimés, ouvrez les guillemets, ils s'amusaient à ces bagatelles coupables avec lesquelles un homme cherche à satisfaire une femme, fermez les guillemets, me semble lâche et pornographique. Donc, en fait, c'était une fille qui avait beaucoup d'esprit et en fait, elle avait fait beaucoup de choses. Elle dit « J'ai adoré la tragédie, la comédie, le vaudeville. Je fus critique dramatique depuis. Je ne mets plus les pieds au théâtre. J'ai adoré la musique. Je fus critique musicale. Depuis, les sonates me font fuir et je ne me dérangerai pas de mon coin du feu. Je ne donnerai pas ma part de paresse pour Chalapine. J'ai adoré les romans. Depuis que j'en écris, je ne les lis plus et je ne les vis plus. Mes plus grandes joies furent les bals et l'été. J'ai été chroniqueuse mondaine. Depuis, je baille au dancing et je trouve qu'on dîne bien mal dehors. » Elle continue, elle dit « J'ai adoré les voyages, j'ai fait quelques grands reportages, ça m'a guéri des trains, des avions, des bateaux et des voyages. Je fus fort curieuse, je suis devenue journaliste. Et cela m'a donné une telle indigestion de curiosité payée, laïque et obligatoire, que je ne veux plus rien savoir. » Donc elle a rejeté tout ce qu'elle avait approché de près. Avec un parfum de nihilisme, il faut quand même savoir qu'elle a utilisé la moitié de sa vie et de sa fortune à retrouver et à détruire tous les livres qui avaient été édités. Et dans ce côté laïque et obligatoire, moi je comprends qu'elle voulait plus être une femme moderne, branchée, ne plus avoir raison dans un monde si bourgeois, si pétri de conventions, d'hypocrisie, de lieu commun, et y compris dans le monde des maisons closes. Alors, c'est vrai que les chansons goualantes représentent une vision folklorique de la prostitution. C'est vrai, dans beaucoup de chansons de monologues, il y a même une tendresse pour les filles. Bon, la vérité était plus cruelle. Il y a beaucoup de souteneurs qui ont tué leurs filles. Mais d'après l'historien Louis Chevalier, qui est cité dans les goualantes, chaque famille, ou peu s'en fout, compte un gars ou une garce qui a mal tourné. Donc il y avait quand même une pratique presque courante. Quant à savoir si c'était plus joyeux que cruel, là je vais vous laisser faire la part des choses. Donc, notamment pour ce qui est dur, la prison Saint-Lazare, où on emprisonnait les femmes et notamment les prostituées qui avaient été raflées ou qui avaient été testées malades de la syphilis. Donc en 1857, à la prison Saint-Lazare, il y a une population générale, parce qu'il n'y a pas que des prostituées, de 1300 détenus. Donc c'est en trois sections, et la seconde est à la fois et un lieu de punition et un hôpital pour les, prostituées, parce qu'on les soignait de la syphilis, au mercure, c'était terrible pour la santé, on pouvait en devenir fou, et c'était quelque chose de terriblement dur. En 1885, c'est un total de 10 907 femmes et jeunes filles qui sont passées par Saint-Lazare. Donc, bah, je vais vous passer la chanson Saint-Lazare, toujours pas chapeau. Alors, dans la chanson, à un moment, il dit « faire un liévin ». Ça, ça veut dire « économiser un sou » dans l'argot louchbem, l'argot des débouchés.
C'est de la prison que je t'écris, mon pauvre Polita. Hier, je sais pas ce qui m'a pris à la visite. Il y a des maladies qui se voient pas quand que ça se déclare. N'empêche qu'aujourd'hui je suis dans le tas à Saint-Lazare. Pendant ce temps-là, toi mon vieux chien, qu'est-ce que tu vas faire? Je peux pas t'envoyer rien de rien, c'est la misère. Ici tout le monde est décavé, la braise est rare. Faut 3 mois pour faire un laver à Saint-Lazare. T'en trouver la grande nana, tu dis que je la priote. Qu'est-ce qui est pour moi, je lui rendrai ça à la sortie. Surtout lui fais pas de boniment pendant que je me terre et que je bois des médicaments à Saint-Lazare. Puis mon vieux loup, ne bois pas trop, tu sais que t'éteignes. Et quand t'as bu un petit coup de trop, tu fous la beigne. Si tu te faisais coincer à soir dans une bagarre, y'a plus personne qui viendrait me voir à Saint-Lazare. Je finis ma lettre en t'embrassant, adieu mon âme. Malgré que tu sois pas caressant, oh, je t'adore comme j'adorais le bon Dieu comme papa quand j'étais petite et que je m'en allais comme une hiéra, Sainte Marguerite.
Voilà. Donc maintenant, on va passer au livre Chronique du Paris Apache. C'est sorti en 2008 au Mercure de France et c'est constitué des mémoires de Casque d'Or et d'un texte La Médaille de la Mort qui avait été écrit par Gardien de la Paix. Et cette histoire de Casque d'Or, en fait, est celle qui avait été recueillie en 1902 dans la revue Fin de siècle. Casque d'Or s'appelait en réalité Amélie Ellie. Et dans l'intro du livre, il raconte qu'en 1880, la préfecture de Paris note que sur 134 attaques nocturnes recensées par la presse pour le mois d'octobre 1880, la moitié était de pure invention. Donc on voit bien cette... tout à l'heure je parlais de cette ambiance de... Enfin, les médias ont beaucoup exagéré en fait la violence qu'il y avait à Paris. Et dans les années 1850, la figure de l'autre, des barbares, était surtout celle des ouvriers. Mais à partir de 1900, c'est la page qui va incarner toutes les tares condamnées par la société de la Belle Époque qui se construit. La criminalité, l'alcoolisme, la fainéantise, les tares congénitales, le sexe un peu animal et hors mariage que les bourgeois avaient projeté avant sur les ouvriers. Donc, histoire de Casque d'Or. Alors, elle se met en ménage à 13 ans et 3 mois avec un ouvrier serrurier de 15 ans. Donc, dans un hôtel, ils avaient commencé par essuyer 3 refus, en vain d'en trouver un. Et dans cet hôtel, on vient quand même l'arrêter 2 fois. Elle fait 2 mois dans une maison de correction, puis 4 mois la deuxième fois. Elle n'est pas encore prostituée. Donc, elle quitte son chéri au moment où elle sent que la routine s'installe. Elle écrit « Alors, j'ai voulu retrouver de la flamme, du tremblement, des rêves bleus. Voilà pourquoi j'ai filé droit devant moi. » En fait, 2 heures plus tard, elle rencontre une prostituée qui la recueille, qui travaillait chez elle. Ensuite, rapidement, elle est maquée par un certain bouchon qu'elle rencontre dans un bal. Il y a une scène assez étonnante de serment sous forme de faux mariage improvisé dans une église où ils font allumer le cierge. Alors, elle nous parle du dénommé Bouchon, et voilà ce qu'il faisait. Dans la journée, Bouchon était marchand de 4 saisons. Voilà pour le métier officiel. Quant aux autres, ils sont presque indéfinissables tant ils sont noyés dans la nuit des arrière-boutiques. Quoi qu'il en soit, et sur le coup de 2 heures, on pouvait voir Bouchon, revêtu d'une grande blouse et coiffé d'une haute casquette de marchand, pousser devant lui cette voiture basse à 2 roues que tous les Parisiens connaissent. Il jetait là-dedans, avant de quitter la rue du Volga, une demi-douzaine de choux-fleurs, 4 ou 5 bottes de radis, et vogue la galère, le voilà parti. Donc plus loin, elle explique que ni la voiture, ni les légumes ne lui appartenaient, en fait, il les louait à la semaine. Ensuite, Bouchon la passe à tabac avec un de ses copains parce qu'elle rapporte pas assez et elle quitte Bouchon. Elle quitte Bouchon, mais elle espère qu'il va venir la rechercher. Donc 4 jours plus tard, elle rencontre Manda de la Courtille. Alors lui, de quoi vivait-il? Bah, notamment du jeu. Alors on sait qu'il fabriquait aussi des fausses clés, ses couteaux, qu'il savait réparer des horloges. Faut savoir qu'en fait beaucoup de ces gars avaient une carte d'ouvrier spécialisé ou pas. Ils avaient eu un métier et puis ils avaient fait un autre choix de ne pas aller à l'atelier. Aussi en fait il attrapait des poules et des pigeons dans les jardins derrière ou près des barrières qu'il tuait au lance-pierre. Et il braconnait aussi des poissons au lac Doménil. Donc Casque d'Or s'étonne parce que lui n'était pas tatoué et c'était pour ne pas faire comme les autres. Elle dit à part le grain des Apaches au coin de l'œil. Donc elle travaille pour lui, elle habille de beaux vêtements, d'astrakhan, elle lui paie des hautes formes, des chevalières. Elle raconte aussi une arrivée à la prison Salazar suite à une rafle, c'est très intéressant. C'est elle qui décide de s'inscrire en maison. Et puis le 20 décembre 1901, elle le quitte parce qu'il l'a trompée. Donc elle retourne à Charonne, elle espère qu'il va venir la rechercher, mais il tarde, il laisse passer une semaine, et là, elle rencontre l'ECA. Alors l'ECA, lui, avait été au BATDAF, hein, les bataillons disciplinaires en Afrique. En fait, toutes les personnes qui avaient des condamnations pour au moins 6 mois de prison se retrouvaient là-bas. Donc, notamment tous ceux qui avaient été pris sur une grève ou sur une manif un peu violente. Et là, par contre, elle parle des tatouages de l'ECA. Alors attention, il y a une salle de bain sur la poitrine avec des femmes en caleçon. Derrière l'épaule gauche, il y a un serpent qui vient, passe sous son bras, s'entortille autour d'un vase antique et vient jusqu'au cœur. Ailleurs, un scorpion et une étoile signent des BATDAF, un curé, un paysage, une guêpe, un mousquetaire, une hirondelle, un dé à jouer et une andalouse. Et même, etc. Et dans le dos, il y a une oasis avec un lion, une lionne, des palmiers, un sphinx, des cactus. Un grand soleil qui se couche. Alors bon, Manda a réagi. Donc j'ai dit qu'elle avait rencontré l'ECA le 20 décembre. Le 26, elle rencontre l'ECA. Le 30, il prend un coup de poignard. Le 2 janvier, on tire à travers leur fenêtre. Le 5, il y a une grosse mêlée. L'ECA se prend une balle dans le bras, une dans la cuisse. Et là, le 8, il est amené à l'hôpital par Casque d'Or. Les balles sont extraites le lendemain. Et le 31 mai, c'est le jugement. Manda est condamné à perpétuité à l'âge de 26 ans. Donc on se passe un petit monologue.
Putain, qui sont des salauds. Petits, gros, gras, maigres, ils font des métiers. Je fous pas de ça. Moi, je fous ni bed nib. Je suis pègre. Pègre, mais pas pègre à la mie de pain. Pègre de naissance, d'autor et de rif. Pègre de la haute. Et je colle un pain au pantrio quand il sort bif. Et quand il veut repiquer au tas, ou quand il veut gueuler, je le sionne. J'y crève la peau, je le fous en bas. Des fois, pour m'amuser, je le sonne. Bah oui, je le sonne. Et puis après, j'attrape les 2 oreilles du gonce. Et puis j'y cogne la tête sur le grès. Pas sur le pavé de bois, ça s'enfonce. Tandis que le pavé de grès, c'est dur. Même quand on n'a pas les mains lourdes, après 4-5 coups, on est sûr que le sang y sort par les esgourdes.
Voilà, c'était charmant. Donc je passe au deuxième livre qui est dans les chroniques du Paris Apache, c'est La médaille de la mort. Alors ça avait été rédigé à la main en 1905 et illustré de coupures de presse par le gardien de la paix Eugène Corsi. Et en fait, il n'avait jamais été publié parce qu'on l'a redécouvert dans un grenier qu'en 1993. Alors en fait, les policiers paraissent souvent plus frustres même que les Apaches après lesquels ils courent. Et à un moment, il cite un de ses collègues. ouvrez les guillemets. C'est ce qu'on appelle l'intéressante classe ouvrière. Ça gagne 8 à 10 francs par jour, mais ça travaille 2 jours par semaine. Il y en a qui sont pères de famille, ça fait des dettes. Ça laisse crever de faim femme et enfant. Ça ne paie pas son propriétaire, ça se fait expulser, ça engueule la police. Ça braille dans les réunions publiques, mais c'est électeur. Et ça vous gueule dans les oreilles quand vous les arrêtez. Je suis un honnête homme, moi je travaille. Je n'ai pas des mains de feignant, voilà ma carte. Jolie preuve qu'ils ont en main. Fin de citation. Donc en fait, un ouvrier gagne pas 8 à 10 francs par jour. Un ouvrier qualifié gagne en général 7 francs, et un non qualifié 3 francs. Donc là encore un gars qui est dans une, qui vit un peu dans, dans une fiction. Et alors, moi je voudrais pointer le fait que la réinsertion des délinquants, ce n'était pas vraiment encore une idée à la mode. Hein. Alors trois exemples. L'histoire de Augustine Guy, qui était poseuse et couturière de 17 ans, qui est arrêtée 3 fois pour avoir posé dans, pour des photos porno. Eh bien, elle sera inscrite d'office par le bureau des mœurs, comme fille en tolérance, alors qu'elle n'est pas prostituée. Et de surcroît, ils l'inscrivent sans attendre sa majorité, ce qui constitue une violation de, du règlement. Alors, deuxièmement, quand Casque d'Or parle de Bouchon qui fait le faux marchand des 4 saisons, elle écrit aussi, détail plus étonnant encore, la médaille qu'il pendait à sa blouse n'était pas la sienne. Il avait bien, paraît-il, réclamé une permission pour lui-même, mais la préfecture, après avoir consulté son casier judiciaire, avait refusé. Et dans les notes, on apprend que la possession d'une médaille avec un numéro était réglementaire et obligatoire pour faire le marchand des rues. Autre exemple, donc, après le... la fin de Casque d'Or, parce que l'histoire se termine dans le livre, au procès en fait. Donc, il y a un peintre, il s'appelle Émile Dupré, qui fait son tableau, mais on ne le laissera pas l'exposer au salon annuel de peinture de Paris. On lui avait écrit une pièce de théâtre, mais on lui refuse de chanter dans un théâtre, comme on va lui aussi refuser de travailler dans un cirque. En fait, c'est la police qui se déplaçait pour mettre la pression sur le théâtre ou sur le cirque. Voilà, donc maintenant on va s'écouter un autre petit truc, ça c'est du CD, alors là c'est une chanson goualante, repris par le groupe Petit Lui, et c'est en mode de reggae.
Elle se dépêche vite de vous coffrer. Parlons aussi de ces hommes politiques, des tas de mannequins qui changent de parti, qui pour leur trahissent la République. Ces gros dans la vendraient bien leur pays. Maintenant parlons de ces héros sublimes, race by Banky, que l'or ne tenta pas. Pauvre héros, que devant vous je m'incline. La France vous aime et ne vous oublie pas. Ô toi, race by, toujours avec franchise, tu combattis contre la royauté, laissant à tous ta fière et mal devise. Travail, espoir et vive la liberté. Travail, espoir et vive la liberté.
Ok, donc maintenant on va passer à l'argot. Alors ça se pratiquait quand même beaucoup plus dans les bagnes et dans les prisons que dans les faubourgs, mais on en trouve beaucoup dans les chansons. Et ce qui est marquant, c'est que les mots d'argot changent de sens au cours des siècles, même au cours des décennies. Alors je commence par le livre qui s'appelle « La vie généreuse des mercelots, gueux et bohémiens, contenant leur façon de vivre, subtilité et jargon ». C'est un titre un peu long, c'est normal. Ça date de 1596, c'est comme ça qu'on aimait les titres au XVIe siècle, donc écrit par Péchon de Ruby. En fait, c'est un pseudo, donc c'est un bandit hein, qui raconte les mœurs, les coutumes dans les bandes à l'époque, et il y a beaucoup de mots d'argot. Alors, à ne pas acheter à la BNF, parce que c'est dans un français de l'époque, donc absolument incompréhensible. C'est des deux textes du début du 17e, je crois qu'ils ont choisi à la BNF. Donc il faut l'acheter chez Alia, parce qu'ils ont actualisé le texte, sauf l'argot bien sûr, qui fait l'objet d'un lexique à la fin du bouquin. Alors les seuls mots de ce bouquin de Péchon de Ruby pour lesquels j'ai trouvé d'autres entrées sont « mitoufler pour gants » dans un dico d'argot de 1900, ou « rivarde pour prostituée » dans des dicos d'argot de 1899 et 1901, mais je crains qu'en fait les auteurs aient peut-être juste repris le Péchon de Ruby pour écrire leur dico. Alors, dans la postface au Péchon de Ruby, enfin à la vie généreuse des mercelots, il y a une réflexion sur les gueux et les mendiants. On nous explique qu'avec l'éthique chrétienne, les pauvres faisaient partie du peuple du Christ depuis la tradition de l'aumône, des vœux de pauvreté et de l'apparition des ordres mendiants. Donc la bienveillance face aux démunis faisait partie intégrante de la vie sociale. On nous dit ensuite, tout au long du XVIIIe siècle, il n'est pas rare de voir à Paris une rue entière se révolter, le bâton ou le couteau à la main, pour arracher un mendiant des griffes des archers. Le mendiant n'était pas devenu l'objet d'une méfiance généralisée. Et enfin, ce livre nous laisse voir comment se sont constituées les frontières sociales d'un monde moderne violemment sédentaire et normatif, comment s'est généralisée toute une idéologie du travail et de l'exclusion, aujourd'hui plus que jamais à l'œuvre. Pas mal. Donc c'est vrai qu'on a un Moyen-Âge avec plus de 100 jours chômés par an, et puis on a un 19e productiviste, où là il n'y a plus du tout c'est pas du tout les mêmes conditions. Et l'exclusion paraît en même temps. Alors moi je rajouterais que c'est le tout premier dico en langue française, et apparemment on le doit à un bad boy. Alors deuxième livre sur l'argot, un bouquin beaucoup plus récent puisqu'il date de 1690, c'est le Furtière, les mots obsolètes. Donc il sort 3 ans après la mort de son auteur, qui avait été exclu de l'Académie française, dont le dico sortira encore plus tard, en 1694, exclu parce qu'il refusait que tous les mots de leur dictionnaire doivent provenir que du latin ou du grec. Pour lui, c'était pas possible. En plus, à l'époque, il y avait à la cour, il y a beaucoup d'Italiens, etc. Et donc, dans son dictionnaire, il y a toujours une illustration d'un mot par une phrase. C'est tout le charme du bouquin. Alors, je vais vous donner quelques mots. Donc, pour les maisons closes, j'ai trouvé Bocan et Garouage. Garouage, c'est un lieu de débauche obscur où on ne va que la nuit. Et Bordeaux, et il précise, ce mot est vieux, on dit maintenant bordel. Il vient de Borde parce que les femmes de mauvaise vie étaient logées dans de petites maisons. D'autres croient que ce mot vient de bord et eau parce que ces maisons étaient autrefois au bord de l'eau. peut-être un peu l'ancêtre des guinguettes. Alors, pour prostituer, j'ai trouvé 12 mots. Donc, cantonnière, qui va se prostituer dans divers cantons. Coureuse de rempart, qui est dans la dernière prostitution. Et je crois que ça s'est conservé un peu au 19e. Demoiselle, se dit ironiquement des femmes de mauvaise vie. Donzelle, terme burlesque pour demoiselle. Donne, pour signifier une courtisane. Garce, auparavant c'était une petite fille ou une servante de chambre. Gouge, terme injurieux aux femmes de néant qu'on veut accuser de paillardise. Gouine, femme prostituée dans les lieux de débauche, donc encore un mot qui a changé de sens. Gourgandine, guenipe, gueuse, même propre, femme de mauvaise vie. Il y a aussi je ne sais qui, et enfin ribaude, qui est abonnée à la paillardise et à la lubricité. Alors je ne peux pas résister à l'envie de vous donner deux autres définitions. Chevalier de l'industrie, on appelle proverbialement ainsi des gens qui n'ont pas de biens, qui subsistent par leur industrie, comme les filous, flatteurs et écornifleurs. Et aussi dénicheurs de fauvettes. On appelle proverbialement un dénicheur de fauvettes un chevalier de l'industrie qui va chercher quelques bons nids, quelques femmes qui lui fassent sa fortune et avec lesquelles il y ait quelque chose à profiter. Alors en conclusion pour ce livre, dans l'intro, les auteurs notent qu'à l'époque, l'adultère n'est pas encore considéré, n'est pas encore une caractéristique du mariage bourgeois. Moi, ce qui me frappe dans Le Furetière, c'est la peur chez l'auteur que des femmes issues des basses classes sociales puissent accaparer une succession ou diviser ou dilapider un patrimoine. Et je trouve ça dans les trois définitions suivantes. Alors, s'amouracher ne se dit qu'en mauvaise part de ceux qui sont amoureux d'une personne de ville ou d'inégales conditions. Exemple, cette femme s'est amourachée de son valet. Amourette ne se dit aussi qu'en mauvaise part des amours illicites entre personnes disproportionnées. Exemple, ce vieillard s'est marié par amourette. Et enfin, mignoter, qui signifie flatter, choyer. Exemple, cette femme mignote ce vieillard pour tâcher d'avoir sa succession. Ben, je crois que c'est clair. Donc, dans Parrain du Châtelet, j'ai trouvé le mot flic, F-L-I-Q-E, ça c'était pour un commissaire de police. Et lui-même dit aussi, l'argot change et se renouvelle avec les générations de prostituées. Donc, il donne l'exemple suivant. Donc, en 1836, la mort d'une fille publique, c'est un paillasson. Il y a 30 ans, un mangeur de blanc. En 1788, un homme à qualité. Et quelques années avant, un greluchon. Dans le lexique des Goualantes, j'ai trouvé bonneté ou barbeteur, qui a un sens différent dans Le Furetière. Et puis, bourrique, c'est un policier. Et en lisant les chansons d'Émile Chotard, on voit que poulet ou bourre, c'est plutôt employé comme une balance. On va se repasser un petit monologue. C'est parti.
Je suis républicain socialiste, compagnon, radical ultra, révolutionnaire, anarchiste, etc., etc. Aussi, je vais dans tous les métingues. Jamais je ne rate une réunion. Ah, je passe mon temps chez les manzingues où ce qu'on prêche la révolution. C'est vrai que je comprends pas grand-chose à tout ce qu'ils disent des orateurs. Mais je sais qui parle pour la bonne cause et qui tape sur les exploiteurs. Pourvu qu'on chine le ministère, qu'on engueule d'Omal et Totor, et qu'on parle de foutre tout par terre, j'applaudis d'achat et de tort. C'est d'une simplicité biblique. D'abord, faut plus de gouvernement. Puis faut plus non plus de république. Plus de sénat et plus de parlement. Plus de salaud qui vit à sa guise pendant que nous avons un mal de chien. Plus de loi, plus d'armée, plus d'église. Faut plus de tout ça. Faut plus de rien. Alors, c'est nous qui sera les maîtres. C'est nous qui fera ce que nous voudrons. Il y aura plus de chef, plus de contremaître, plus de directeur et plus de patron. Mince qu'on pourra tirer sa flemme. On fera tous les jours à lundi. Oui, mais s'il n'y a plus de la transpem, qui fera la paye le samedi?
Voilà, ça c'était un petit monologue. Donc, maintenant, on va évoquer les illustrateurs. Les illustrateurs, c'est très important parce que ça raconte beaucoup de choses. Alors, avec l'esthétique naturaliste, on commence à représenter à peu près tout en peinture à partir de 1880. Mais c'est dans la presse qu'on va retrouver tous les thèmes en étant plus cru, plus ironique et aussi plus fantasmé. Alors, sur le site de la BNF, entièrement téléchargeable, on peut trouver un volume de 245 pages des illustrations de Jean-Louis Forain. avec toujours en dessus, forcément, deux lignes de dialogue ou un titre. Donc parmi ces illustrations, il y a beaucoup de scènes d'atelier avec des modèles. Énormément aussi d'illustrations avec des petits rats d'opéra en compagnie d'un gros monsieur en manteau et chapeau haut de forme. C'est un thème qu'on retrouve chez beaucoup d'illustrateurs parce que ça correspond à une réalité, à l'opéra notamment. Bah, les bourgeois allaient faire leur marché à l'opéra à la fin pour embarquer des filles ou dans n'importe quel lieu où il y avait des danseuses. Mais ça illustre surtout, on le comprend à force de regarder ces dessins, une tendance, on va le dire, pédophile, parce que ces danseuses de l'opéra sont toujours dessinées toutes petites dans les dessins, et elles étaient très jeunes, effectivement, dans la réalité. Alors, il y a aussi, dans ce recueil, une gravure sur le thème des accapareurs, et là, il y a un type appuyé sur des gros sacs de farine et de café, pendant que des familles affamées défilent devant lui, et là, l'affameur, il a les traits caricaturaux d'un juif, et on se rappelle que Forain était de droite, tandis que Stenlein était de gauche. Alors pour Stenlein, qui est franchement mon préféré pour cette génération, alors moi j'ai une édition anglaise que j'ai achetée par internet, on est d'accord, qui s'appelle Stenlein Drawings et qui reprend 121 dessins pour le journal Gil Blas Illustré. Alors pour le coup, ça illustre surtout des livres, des chansons, donc toutes sortes de thèmes, donc souvent aussi du quotidien. Mais dans les Gil Blas que moi j'ai de 1891, ce qui est sympa aussi, c'est toutes les illustrations des chansons d'Aristide Bruand. La chanson Saint-Lazare ou Belleville-Montant, je les ai en illustré, c'est sympa. Il n'y a pas que Stenlein, il y a encore un petit rat de l'opéra sur un Gil Blas de 1900, illustré par un certain Michel. Après vous avez Le Rire, vous avez plein de choses. Alors j'en profite quand même pour donner... deux petites pistes, là on dépasse un peu le cadre des Goualantes. C'est s'agissant du journal La Bayonnette, donc qui était sorti en 14-18, mais qui a été prolongé dans les années 20. Donc je vous donne le truc. Donc les Bayonnettes numéro 218 de 1919 et 247 de 1921, parce qu'il y a dans chacun, en page centrale, un magnifique dessin double page de Gus Boffa. Ça vaut la peine. Ensuite, pour des illustrations très très contemporaines, je vous laisse découvrir le site de l'imprimeur schlaglab.com, donc S-C-H-L-A-G-L-A-B, Schlaglab. Donc au départ, ils font de la sérigraphie à la main. À l'arrivée, on a des posters, des BD, des badges, des t-shirts et des suites à des petits prix. Et c'est toujours dans un thème banlieusard très revendiqué, donc on reste dans le thème. Et ils ont le bon goût d'être installés à Vitry, au 29 rue André Visage, donc à deux pas de Livre en Lutte. Donc, je vais, avant de passer peut-être la dernière chanson, vous rappeler que vous êtes donc sur Radio Libertaire, donc sans Dieu ni maître et sans publicité. Donc, il est possible, il suffit d'aller sur le site, de faire un don, ils expliquent comment faire. Donc, si vous voulez envoyer un petit chèque avec un petit courrier, ça peut être sympathique. Et dire comment vous avez rencontré l'émission Livre en Lutte. Est-ce parce que vous avez fréquenté la librairie de Vitry-sur-Seine, 62 avenue Guy Moquet, ouverte du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15 à 18h. Est-ce la librairie de Champigny, 8 avenue du Marché, ouverte le mercredi matin et le samedi matin. Est-ce la librairie de Montreuil, au 22, Galigny, enfin rue Galigny, ouverte le mardi et jeudi après-midi et le samedi matin, ou est-ce que c'est par tout ce qu'on peut proposer avec Livre en Lutte, en partenariat par exemple au cinéma Les Trois Robespierre, quand on invite des personnes à l'occasion de la projection d'un film. En mai, on a projeté donc Une vie, une jeunesse allemande, donc c'est sur les années de plomb en Allemagne, il y avait deux anciens de la fraction Armée Rouge, plus un traducteur, et deux semaines avant, on avait projeté 20 ans, avoir 20 ans dans les Aurès, et il y avait une ancienne du FLN qui était là, une dame un peu réfugiée en France depuis 2002, parce qu'elle était un peu journaliste, et bon, ça s'était pas très bien passé. Sinon, vous pourrez nous retrouver à la fête de l'UMA, sur beaucoup de manifs, et puis on va essayer d'être présent sur les petites initiatives punkoïde à Montreuil, où quelqu'un essaie d'impliquer un petit peu la grosse scène punk de Montreuil dans la vie locale. Donc ça, vous allez sur Razibus, en bas de la page, vous tapez Montreuil, vous avez toutes sortes de tous les événements qui sont listés, et là, ben, on pourrait peut-être aussi, à l'occasion, plus tard, se rencontrer. Voilà, je vais vous passer une chanson sur le RAD. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à raconter sur cette chanson? Oui. Donc, en fait, cette chanson, elle aurait été chantée pour la première fois par les vidangeurs de la Villette. Les vidangeurs, c'est vidangeurs de des fosses septiques, on va dire. Et donc, d'après eux, c'est un de leurs collègues, déporté en Cayenne en 1848, qui l'aurait écrite. Puis après, il aurait rajouté les deux dernières strophes, donc après la commune, puisque ça parle effectivement un petit peu de la commune. Et ben voilà, prochaine émission, on aura un invité, Christian Langeois, qui va nous parler de sa biographie sur Jean-Pierre Chabrol. Ça c'est pour octobre et novembre, vraisemblablement une émission très intéressante sur les Amérindiens. Voilà, je vous dis à bientôt et on s'écoute une dernière chanson. Je savais que je ferais des bêtises. Donc, on repart sur la bonne chanson.
Quand vient la neige sur chaque patelin, les poules descendent vers le turbin. Sur le rade, ils demandent qu'une chose, les pauvres trucs, c'est trouver des poires généreuses. Sur le rade, il y en a des jeunes qu'on voit qu'un. Et bien faut croire que c'est plaisant. Sur le rade, qu'il pleuve, qu'il neige, rien ne les arrête et descend malgré la tempête. Sur le rade, quand elles sont bien en train de truquer, ces messieurs viennent les fabriquer. Sur le rade, ils mettent au torchis le commissaire, celles qui n'ont pas pu se faire la paire. Sur le rade, les gars les font monter tour à tour dans le panier qui dessert la tour.
Ok, donc on va encore s'en passer une petite lune. Alors ce coup-ci, je vous passe un pot pourri.
Chanteront le temps des cerises et guérosignol et merle moka seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant, dépendant d'oreilles. Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sous la forme, en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail, qu'on cueille en rêvant. Vous en serez au temps des cerises. Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les belles. Oui, faites-nous des chansons, nous les fredonnerons. Oui, faites-nous des chansons pour nous donner des ailes. Oui, faites-nous des chansons, nous nous envolerons. Si vous envolez, braves gens, aurez bien de la chance. Vous n'en aurez pas pour votre argent, pas pour votre espérance. Arrive que le chansonneur ait plus rien dans les poches, plus une miette de bonheur, plus une simple croche. Arrive que le rimailleur, là de se faire entendre ailleurs, reste dedans sa chambre, le cœur en plein décembre, et que le musicaillon bouffe le bois de ses crayons, déserté par les notes, les yeux remplis de flottes. C'est pas moi qui vous vendrai du troula troula l'air, c'est pas moi qui vous vendrai du vent. Si c'est ça qu'il vous fallait, du troula troula l'air, si c'est ça, fallait le dire avant. Faites-nous des chansons et faites-nous les tendres. Oui, faites-nous des chansons et nous les aimerons. Oui, faites-nous des chansons qui soient douces à entendre. Oui, faites-nous des chansons et nous les rêverons. Si vous voulez rêver, braves gens, ça sera pas facile. Le rêve a pris la clé des champs, il a quitté la ville. Arrive que le chansonneur aimerait bien se taire et planquer son petit malheur sous deux poignées de terre. Arrive que le scribouilleux puisse rien écrire de mieux, que sa chandelle soit morte, frappée pas à sa porte. Arrive que le musicard ait quelques bateaux de retard, que ses soupirs débordent, qu'il ait cassé ses cordes. C'est pas moi qui vous vendrai du troula troula l'air, c'est pas moi qui vous vendrai du vent. Si c'est ça qu'il vous fallait, du troula troula l'air, si c'est ça, fallait le dire avant. Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les drôles. Oui, faites-nous des chansons, nous nous épanouirons. Oui, faites-nous des chansons que le rire nous frôle. Oui, faites-nous des chansons, nous les achèterons. Bien si vous rigolez, braves gens, ça sera la surprise. Faudrait pas tricoter longtemps votre matière grise. Arrive que le chansonneur ait pour vous trop d'estime, pour viser plus bas que le cœur, en dessous de la rime. Arrive que le paroleux, plutôt que de se vendre au mieux, préfère encore se taire, le cul posé par terre. Et que le pauvre écosse note, plutôt que de baisser culotte, reste dans sa cuisine à gratter en sourdine. C'est pas moi qui vous vendrai du troula troula l'air. C'est pas moi qui vous vendrai du vent. Si c'est ça qu'il vous fallait, du troula troula l'air. Si c'est ça, fallait le dire avant. C'est pas moi qui vous vendrai du troula troula l'air. C'est pas moi qui vous vendrai du vent. Si c'est ça qu'il vous fallait.